Alors, nous sommes aujourd'hui au téléphone avec Victor Julien Laferrière. Bonjour Victor Julien Laferrière.
Bonjour.
Alors, nous vous contactons puisque vous allez donner prochainement à Montpellier, avec l'orchestre de Montpellier dirigé par Kirill Karabits, une œuvre qui n'a pas vraiment été beaucoup donnée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça va être sa deuxième interprétation au concert au monde.
Exactement, exactement. Nous l'avons créée il y a à peine quelques mois, en début octobre dernier, en Angleterre. Donc nous avons donné deux concerts de cette œuvre et c'était les premiers.
D'accord, c'était les tout premiers, donc avec l'orchestre symphonique de Bournemouth, dont Kirill Karabits est le chef principal. Alors, c'est une œuvre, vous disiez dans un interview que vous avez accordé pour l'opéra, que vous aviez en fait découvert cette œuvre parallèlement, si je puis dire. C'est pas l'un qui l'a fait découvrir à l'autre, vous l'avez découverte chacun de votre côté. On va préciser quand même de quoi il s'agit comme œuvre aussi.
Oui, alors déjà il s'agit d'une œuvre de Théodore Akimenko, compositeur ukrainien qui a vécu en Russie, qui a fait des études avec Rimsky-Korsakov à la fin du 19e siècle en fait, et qui a ensuite émigré en France au début du 20e siècle, où il a écrit toutes sortes de musiques, dont ce concerto pour violoncelle qui date de 1922. Et alors ce compositeur Théodore Akimenko, on le connaît également car il a été l'un des professeurs du grand Igor Stravinsky, notamment un des professeurs à l'adolescence de Stravinsky. Et tous deux, de toute façon, ont eu le maître en commun, Rimsky-Korsakov. Voilà. Donc on se retrouve dans la situation très étonnante de créer, en l'occurrence c'était en 2022, de créer une œuvre écrite un siècle avant, en 1922.
En effet, c'est surprenant, oui. On trouve très très peu de choses sur Théodore Akimenko. C'est vraiment une découverte, parce que, bon, professeur de Stravinsky, mais Stravinsky n'en dit pas un mot, là, je feuilletais ses mémoires, il n'en dit rien du tout. Et puis il a été professeur, donc il a eu le Balakirev aussi comme élève, et Liadov, donc des compositeurs russes de renom, même si c'est pas forcément connu du grand public, mais enfin c'est quand même des grands noms de la musique russe. Et puis passer à la trappe. Alors à quoi on peut le lier cela? Parce que je cherchais, y compris sur les programmes de concerts, de les revues de sur l'époque où il était en France. On a quelques annonces d'œuvres de quelques-unes de ses œuvres en concert. Et puis c'est tout, quoi, quasiment.
Mais oui, alors quelques-unes de ses œuvres sont entrées au répertoire symphonique ou de ballet, par exemple. Quelques œuvres isolées comme ça, mais souvent on connaît plus le spectacle auquel elles sont rattachées, que l'œuvre et le compositeur en eux-mêmes. Mais sinon, je pense qu'il y a aussi une part de la difficulté à émigrer quand on est un artiste comme ça, implanté dans un pays, en l'occurrence pour lui c'était la Russie tsariste, et puis ensuite à émigrer comme ça dans un nouveau pays. Je ne connais pas les détails forcément de comment ça s'est passé pour lui à l'époque, mais manifestement il n'a pas réussi à avoir une carrière au même niveau en France ensuite. On a la trace sur le manuscrit qu'a retrouvé Kirill Karabits à la Bibliothèque nationale de France. On voit la trace de ses envois à différentes maisons d'édition, et notamment l'une à New York. Et donc c'est pour ça qu'il avait préparé un manuscrit absolument impeccable, prêt à être édité, prêt à être joué, avec même une réduction de travail en fait pour violoncelle et piano.
D'accord. J'ai quand même trouvé des petites choses sur lui lors de son premier séjour parisien, donc c'était en 1906-1909, je crois. Une de ses œuvres avait été donnée. Un critique disait, il s'agissait du poème lyrique de Monsieur Akimenko, plaît par ses phrases mélodiques, sa fougue passionnée et son instrumentation sévère mais bien sonore. C'est l'œuvre d'un artiste sincère, inspiré et savant. Est-ce que vous êtes d'accord, maintenant que vous êtes rentré dans l'œuvre, est-ce que vous seriez d'accord avec ce propos d'un critique au début du XXe siècle ?
Alors, je serais d'accord avec quasiment tout. J'aurais ajouté que l'orchestration est plus que sévère. Elle est plutôt chatoyante à la Rimsky-Korsakov et comme dans la tradition des Russes de la fin du XIXe siècle. J'aurais peut-être ajouté aussi, parce que c'est une œuvre plus tardive que celle qu'a critiquée ce monsieur. J'aurais ajouté qu'il y a des influences certainement françaises qu'on pourrait peut-être attribuer à un style proche de Massenet, par exemple, et qu'il y a une très forte influence de la danse également dans le concerto de violoncelle, que ce soit dans le premier ou dans le troisième mouvement, dans ces deux mouvements-là, il y a beaucoup d'influence de danse et de musique populaire.
Alors, c'est au compositeur oublié. Donc, par contre, alors la partition, vous l'avez découverte comment? Comment vous en avez entendu parler? Parce que faut vraiment aller chercher pour trouver des choses sur ce compositeur.
Alors là, vous faisiez référence à une interview pour l'orchestre de Montpellier, et donc j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est entièrement au crédit de Kirill Karabit.
Ah, alors, c'est moi ou c'est moi qui ai mal lu,
Ah non,
excusez-moi.
je n'ai pas relu l'interview, donc quelquefois, vous savez, on dit quelque chose et on le dit mal et c'est mal compris. Mais en tout cas, c'est en effet lui qui connaissait ce compositeur, qui en a déjà joué, qui a déjà joué une grande partie de son œuvre, et notamment avec son orchestre anglais, excellent, de Bournemouth, et qui a donc fait des recherches à la Bibliothèque nationale, qui a découvert ce concerto-là et qui ensuite a fait de très longues démarches administratives parce que c'est absolument pas si simple de sortir comme ça un manuscrit, d'avoir le droit de l'éditer, d'avoir le droit de le jouer. Mais il a fait toutes ces démarches et donc c'est ensuite qu'il m'a contacté quand il a réussi à sortir le manuscrit. Il m'a contacté pour me présenter cette œuvre et le projet et j'ai été absolument ravi, ravi qu'il pense à moi et de pouvoir prendre part à une expérience unique de cette manière.
Pour vous, en tant qu'interprète, je dis souvent quand on a de grandes œuvres du répertoire pour violoncelle, hein, on peut citer Dvorak, Saint-Saëns, bon, et beaucoup d'autres, il y a toujours une référence ou des autres compositeurs de l'époque, voire des interprétations très nombreuses qui ont été enregistrées. Là, du
Mais
coup,
oui.
vous n'avez aucune référence. Vous avez une... Alors, c'est un plus, cette liberté ou cette obligation de tout inventer.
Ben alors, en fait, pour tout le répertoire pour lequel on a justement tant de références, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on essaye d'oublier toutes ces références souvent en tant qu'interprète. On essaye de repartir d'une page blanche, on essaye de pas se faire trop influencer et puis voilà, on essaye de jouer l'œuvre du compositeur et pas l'œuvre d'un très grand interprète qui nous aurait précédé et qui nous aurait imposé sa vision. Donc, d'une certaine manière, c'est un privilège d'aborder comme ça une œuvre avec, certes, c'est des codes musicaux d'une certaine manière qu'on connaît, même si la musique est totalement neuve. C'est un langage qu'on. Je parlais de Massenet, je parlais de Rimsky-Korsakov. Ce sont des compositeurs dont on connaît pas mal de très grandes œuvres. Donc, moi, c'était une situation inédite pour moi de comme ça d'aborder une œuvre justement à la fois avec des codes musicaux que je maîtrisais plus ou moins, et en même temps, justement, une musique totalement nouvelle, à laquelle il fallait, comment dire, de laquelle il fallait trouver le sens, et ça m'a passionné, et ça continue de me passionner.